Alors, je présente rapidement nos invités de ce soir. Nous avons Cécile Tourneux. Elle est docteure en esthétique, sciences et technologies de cinéma et de l'audiovisuel. Sa thèse portait sur la qualification de la voix dans les films de Yonas Mackes. Elle enseigne à l'Université Paris 8 l'histoire du cinéma indépendant américain des années 50 et 60 et l'histoire du cinéma documentaire à travers le prisme de son. Elle consacre ses travaux de recherche au cinéma expérimental et documentaire. Elle est par ailleurs conférencière à la Cinémathèque française et intervient régulièrement dans des ciné-clubs et au sein des dispositifs d'éducation à l'image sur des thématiques périodiques et genres cinématographiques variés. Donc, Cécile Tourneur. Et Michael Batala, du coup, qui dirige depuis janvier 2019 le Centre international de poésie à Marseille. Il a notamment publié « Poèmes, paysages maintenant » 2007, édition Jean-Michel Place, puis « Poésie est possible » en 2015 et « Noir de léger » en 2019 aux éditions Nous. Entre 2006 et 2013, il a créé et animé la collection « Expériences poétiques » des éditions Le Clou dans Le Fer. Il a enseigné l'écriture poétique dans divers contextes, notamment en école d'architecture. Bienvenue à la Bulac dans cette discussion. On vient de voir ce film magnifique de Yonas Mackes. Et je voulais savoir d'abord, peut-être parmi les spectateurs, vous avez peut-être des questions, des petites remarques. Vous pouvez partager vos sentiments par rapport à ce film, est-ce que ça vous a, si ça vous avait plu, qu'est-ce que vous avez ressenti, si quelqu'un a envie déjà de commencer, dire quelque chose. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a jamais vu le film de Mackes, les films de Mackes parmi vous? 3. Ah bah, très peu. Je croyais qu'il y aura beaucoup plus. Bon, mais c'est génial. Est-ce que pour quelqu'un, c'était la deuxième fois que vous avez vu celui-ci? Non. Ça vient naturellement, cette question. Très bien. Bah, écoutez, Agathe, tu me regardes, tu as une question? Attends, je passe avec le microphone.
Moi, c'est la première fois que je vois ce film et je l'ai trouvé très beau, mais aussi un peu triste. Et quand il y avait des petits passages un peu tristes avec la musique notamment, enfin, qui m'a touchée. Et je me suis dit que quand même pour cette histoire d'émigration, de retour et tout, ça reste très léger comme film. Enfin, parce que je pense à l'histoire de ma famille et au retour de mon grand-père en Lituanie. Et ce que j'en ai cru comprendre, c'était... Enfin, ce qu'il a pu en raconter était beaucoup plus, moins poétique, beaucoup plus difficile, plus noir que ce que j'ai vu ici. Donc ça fait du bien de voir un témoignage qui est différent.
Oui. Je suis d'accord et c'est peut-être lié aussi au dispositif de Max. Son film qui est poétique, en fait, c'est ce côté poétique peut-être qui rend tout, qui donne des couleurs un peu plus joyeuses que tristes ou peut-être mélancoliques, je dirais, je sais pas, peut-être.
Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus découvrir ou redécouvrir ce magnifique film. Par rapport à, effectivement, cette sensation d'une joie de retrouver les siens, même si c'est teinté de nostalgie, de mélancolie, peut-être qu'on peut préciser aussi le contexte de tournage du film. Pour les personnes qui connaissent Mackes, et il le dit dans le film, il passe 27 ans en exil aux États-Unis avant d'avoir l'autorisation de revenir en Lituanie. Donc c'est un retour après énormément d'années. Ça veut dire qu'à ce moment-là de sa vie, il a passé plus de temps aux États-Unis qu'en Lituanie. Donc ça, c'est important aussi. Il commence vraiment, vous l'avez vu au début du film, à se considérer comme étant américain. Il commence à avoir toujours une double identité, mais à se sentir chez lui aux États-Unis. Et il a l'opportunité, au début des années 70, d'aller en Lituanie. Mais le retour en Lituanie, là, ce que vous voyez sur le film, il y a tout le hors-champ politique, en fait, qu'on ne voit pas. Et Mekas était accompagné d'une équipe de tournage officielle qui avait été mise à sa disposition, mais dont il n'a jamais voulu se servir, parce que pour lui, c'était trop intime, en fait, d'organiser un tournage avec plusieurs personnes. Il voulait filmer sa mère, sa famille, de façon très proche et quotidienne. Mais voilà, il a raconté après coup qu'en fait, ils étaient quand même surveillés pendant le tournage, qu'on lui donnait les moyens de faire ce qu'il voulait, en gros, mais qu'il y avait quand même, ils n'étaient pas seuls. Avec sa famille. Et en fait, une fois qu'il a monté le film, parce qu'il a eu un financement de la télévision allemande, qui lui a commandé le film pour le début de l'année 72, Mekas avait oublié qu'il devait rendre un film à la télé allemande, donc il a monté le film extrêmement rapidement, et ça lui permet, il disait, de... Voilà, il ne s'en sortait pas avec ses images, donc il disait, bah, au moins la rapidité, l'échéance a fait que... J'ai dû faire des choix très rapides. Mais en fait, quand les autorités soviétiques ont vu le film après coup, ils étaient furieux, en fait. Ils voulaient détruire le film. Ils disaient qu'il montrait la misère de la Lituanie soviétique. On voyait des gens cuisiner dans leur jardin, qui étaient pauvres, et que ce n'était pas du tout la modernité, à part son ami qui conduit un tracteur. Et voilà. Sinon, c'est vrai qu'il... En fait, ce qu'il cherche dans ce film, c'est de retrouver la Lituanie qu'il a quittée et la Lituanie de son enfance. Donc, il y a vraiment tout ce hors-champ vraiment politique qui n'apparaît pas. Évidemment, les moments de joie et de retrouvailles sont sincères et il ne cache pas non plus l'émotion que ça lui fait de retrouver les sonorités lituaniennes. Il y a quelque chose de proche de Proust, hein, les baies, l'eau, enfin voilà, vraiment dans les sensations. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu retenu parce qu'ils ne sont pas complètement libres. Et récemment, il y a eu sa correspondance, en fait, la correspondance d'Adolphas et de Jonas avec leur mère, qui a été traduite en français. Et Marielle Vituro, qui a traduit ces lettres, me disait que de la même façon, des fois, il racontait que tout allait bien aux États-Unis. Alors qu'on sait par ses journaux que c'était très difficile, qu'il était au début vraiment dans la misère. Mais on, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il devait cacher pour que les lettres passent, qu'il ne soit pas censuré. Donc voilà, il y a une part de oui, il est prudent avec tout ça pour réussir à faire le film qu'il essayait de faire avec sa famille, pour essayer de communiquer avec sa famille. Voilà.
Oui. Et je croyais que déjà le fait qu'il a pu faire ce film... C'était qu'il était parlé russe, il était considéré comme quelqu'un un peu anti-américain, c'est ça ?
Alors, c'est une position ambiguë, parce qu'en fait, aux États-Unis, par ses critiques de films, il a eu des problèmes avec les autorités américaines, parce qu'il a notamment, par exemple, à un moment montré les films de Jean Genet, enfin, le film de Jean Genet, et donc il a été arrêté là par la police, etc. Aux États-Unis, il était considéré comme un communiste, et en même temps, quand il a présenté son film « The Brig », au festival de Moscou, je crois que c'était en 1960. C'est un film qui est très critique, en fait, sur le fonctionnement militaire, en fait, aux États-Unis. Et ce film a eu un grand succès à Moscou. Et donc là, il a été considéré comme anti-américain. Et ce qui progressivement lui a permis d'avoir l'autorisation de revenir. Donc il était obligé de jouer un peu comme ça sur les deux tableaux, même s'il était... Et de toute façon, dans ses écrits, il est ni pro-américain, ni anti-américain. Enfin, il est très conscient de toutes les ambiguïtés du régime soviétique, du capitalisme américain. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout ça. Donc lui, l'idée, c'est pas du tout de retourner sa veste, mais c'est de voir toute la complexité de la situation. Il relate beaucoup de conversations avec ses amis, justement, avec des Lituaniens qui, d'un coup, se mettent à adorer les États-Unis, à adorer la vie américaine, et lui est beaucoup plus mesuré sur tout ça.
On sent parfois qu'il est ironique quand il parle. Et à un moment, il dit « Montrez ça aux Américains, et on voit comme c'est pas bien chez nous, parce que chez eux, c'est très bien. » On sent qu'il y a... Il y a ce côté-là, quand même, quand il parle, il est critique contre Oui. Les États-Unis, c'est sûr.
Complètement, oui. Et puis sa famille, enfin voilà, ce passage-là où il s'amuse, enfin où ses frères, soi-disant, l'obligent à utiliser les outils traditionnels. Il y a un côté, oui, complètement, enfin ironique. Après, peut-être que dans, ça c'est une interprétation, mais il revient comme l'Américain après 27 ans aussi. Hein, il a communiqué avec sa famille, mais il n'a jamais revu sa mère, il n'a jamais revu ses frères qui sont restés agriculteurs. Même si ils ont leur ferme, etc. Lui est quand même poète. Il a des recueils qui ont été publiés. Il est commence à être un petit peu reconnu comme cinéaste. Il a monté l'anthologie Film Archive à ce moment-là. Donc, même si sa famille est très éloignée de tout le cinéma expérimental, tous les deux ils reviennent quand même. Voilà, on sait très bien les gens qui partent dans des pays soi-disant qui ont plus d'argent. Même si la vie est difficile, quand ils reviennent chez eux, on leur dit bah voilà, t'as réussi, c'est un niveau de vie supérieur, etc. Donc je pense que c'est toute cette ambiguïté dans cette ironie qu'il essaie de. Ce décalage, en fait, de. Ils ont, voilà, ses frères ont sans doute du mal à imaginer la difficulté de sa vie quand il arrive aux États-Unis.
Est-ce que quelqu'un a. Une question, peut-être par rapport à ça, par rapport à son retour, par rapport à son statut de Mac en tant que cinéaste ou écrivain, poète. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est du coup ce double statut. Parce qu'on dit souvent qu'en Lituanie, on connaît Mac en tant qu'écrivain. Et partout dans le monde, on le connaît en tant que cinéaste et on ne sait même pas qu'il est un écrivain. Du coup, peut-être pourriez-vous dire quelques mots sur comment il utilise le langage, la poésie dans son œuvre cinématographique et pas que. Parce que du coup, j'imagine, vous, M. Batala, vous avez aussi quelques choses à ajouter par rapport à sa poésie.
Oui, probablement. Je vais essayer en tout cas, parce que contrairement à Cécile, je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre de Jonas Mekas. Je la découvre progressivement au fur et à mesure que nous la traduisons. Et je me suis mis véritablement à l'étudier et que depuis un peu plus d'un an. Donc je n'ai pas une connaissance. On va dire très approfondie de la question, mais je commence à voir quand même deux, trois choses. Et notamment, et je crois que c'est là aussi où le travail que nous menons se rencontre avec le tien, Cécile, c'est qu'il y a en vérité une réelle cohérence entre la part écrite et la part cinématographique, la part poétique et littéraire et la part cinématographique, et je pense aussi même la part critique de l'œuvre de Jonas Mekas. Et ce ne sont pas des œuvres séparées, c'est en fait une seule et même œuvre qui se manifeste dans les différentes formes qu'il expérimente. Et donc si on regarde simplement l'œuvre écrite, elle est composée en gros de... Je prends mon petit papier, hein, parce que je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai besoin de... Mais c'est quand même moi qui l'ai écrit. elle est composée de trois grandes parties. Et les deux premières sont traduites aujourd'hui en français, sont disponibles en français. La première partie étant le journal, qui est de 44 à 55, qui est notamment le journal de l'exil, en gros, et de la découverte des États-Unis. Donc ça a été publié dans une traduction de Jean-Luc Mingus en 2004 chez POL. Et c'est un gros volume, très beau, où on retrouve la beauté de ces films, en vérité. Et ce à quoi je suis, moi, à titre personnel, particulièrement sensible, qui est quelque chose, alors même que Jonas Mekas avait aussi la réputation d'être un critique, on va dire, impitoyable, notamment pour ses critiques de cinéma. Quand il regarde le monde, quand il sort une sorte de douceur du regard, et il témoigne aussi de... on a l'impression qu'il cherche, et on le voit très bien dans ce film, on a l'impression qu'il cherche aussi la douceur chez l'autre. et ou en tout cas qu'il sait la montrer, qu'il sait la voir et la filmer. Et il sait aussi l'écrire. Et il y a quelque chose d'extrêmement délicat dans le regard qu'il pose sur sa vie, sur le monde, et qu'il parvient à traduire dans son écriture. Et cette traduction de Jean-Luc Mingus parvient aussi à rendre ça dans le français. Alors, l'autre partie, j'en ai parlé, c'est la partie critique, donc les chroniques de cinéma qui ont été publiées en France sous le titre Ciné-Journal, un nouveau cinéma américain. Donc, Jonas Mekas théorise par la critique, en vérité, une forme cinématographique qui apparaît dans la grande période du cinéma expérimental américain. Et la troisième partie concerne les poèmes. Et les poèmes, jusqu'à présent, ça représente une dizaine de livres qui s'échelonnent entre 1946 et le début des années 2000. Une dizaine de livres qui ne sont pas des gros livres, qui sont des petits opuscules, des petits volumes de moins de 100 pages, qui ont été publiés un peu partout, en Allemagne, à Kassel notamment, à Chicago et à New York, et qui ont été publiés en lituanien dans un premier temps, puisque c'est pour la plupart d'entre eux, c'est la langue de composition. Il écrit sa poésie en lituanien, et il en a aussi écrit un peu plus tard en anglais. Sa poésie en lituanien a été traduite en anglais, et ses poésies en lituanien et en français n'ont jamais été traduites n'ont jamais été traduites en français, et c'est ce travail que nous menons désormais. Donc les œuvres complètes de Jonas Mekas représentent ce volume. Vous voyez, c'est pas énorme en même temps. Hein.
C'est que la poésie, en fait.
Quelques centaines de poèmes, ouais. les œuvres poétiques complètes, qui viennent d'être rééditées à Vilnius, donc en lituanien. Et c'est une des bases du travail que l'on mène. Alors, pour vous donner une idée, je vais vous lire quelque chose. Et puis ensuite, je vous parlerai, si ça vous intéresse, de ce travail de traduction que nous menons. Alors, ce que je vais vous lire est le premier poème d'un recueil qu'il publie à Kassel, donc, en 1948, en lituanien, et qui s'intitule Les idylles de Semenitske, qui est donc le village que nous voyons dans le film, le village de sa mère, le village où il est né. Et, sauf que le film est tourné en 1972 à son retour. Or, la première idylle est écrite, en tout cas est publiée en 1948, et je ne sais pas, à vrai dire, peut-être tu le sais, Cécile, si elle est écrite à Semenitske ou alors qu'il a commencé son exil, je ne sais pas. Mais donc, quoi qu'il en soit, soit c'est écrit à partir de ses souvenirs, soit à partir de ses perceptions premières, mais tu le sais
Non, parce que là, c'est la date d'édition. Il est publié en 1948, il a déjà quitté la Lituanie. Voilà. Je sais que dans son journal, il parle de ce travail-là sur les idylles. Est-ce que ce sont... j'ai l'impression quand même, en Lituanie, il est parti en catastrophe sans rien. Donc peut-être... Enfin, hosté à caisse. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas eu le temps, en fait, d'emmener ses notes. Et dans son journal, il parle à aucun moment de... notes ou de carnets qu'il aurait pu garder. Donc, à mon avis, c'est plutôt par souvenir.
Ouais.
Ouais, j'ai l'impression.
Alors, vous allez voir, on retrouve malgré tout les images qui sont très proches, y compris d'ailleurs très proches des images du film et très proches aussi des sous-titres du film, c'est-à-dire de... Finalement, vous avez vu que si on transcrit les sous-titres et qu'on les imagine sur une page, ils forment une sorte de poème. Donc la première idylle est vieille, la cataracte de la pluie sur les branches, le tonnerre des grands tétras dans l'aurore rouge de l'été. est vieille cette commune parole nôtre. Sur les champs blonds d'avoine et d'orge, les bergers et leur feu dans la solitude humide venteuse de l'automne, la récolte des pommes de terre, sur les chaleurs suffocantes de l'été, l'hiver à l'éclat blanc, les traîneaux carillonnant sur des routes sans fin, et les lourds chariots de troncs coupés, la caillasse des friches, les poêles en briques rouges et les chambres calcaires. Et lors des veillées à la lueur des lampes, dans la grisaille des champs d'automne, sur les chariots des marchés du lendemain, les chemins inondés et défoncés d'octobre, la récolte mouillée des pommes de terre. Est vieille cette commune vie nôtre. De longues générations ont foulé les champs et laissé des traces. Chaque arpent recèle toujours la voix et le souffle des ancêtres. À ces mêmes puits froids, ils abreuvaient au retour leurs larges troupeaux, et quand les sols de terre se creusaient, que les murs des chaumières commençaient lentement de s'effriter dans ces mêmes trous, ils récoltaient l'argile jaune, le sable doré, dans ces mêmes champs. Et quand nous serons partis à notre tour, d'autres iront s'asseoir sur les pierres bleues à la lisière du champ, ils faucheront les prairies foisonnantes et laboureront les pentes, et quand retour du labeur ils se mettront à table, chaque table parlera, chaque cruche d'argile, chaque poutre du mur. Ils se rappelleront les larges fossés jaunes de gravier et de sable, et les chants de seigle ondulant dans le vent, les complaintes de nos femmes à la lisière des champs de lin, et cette odeur, la première fois dans une nouvelle ferme, le parfum de mousse fraîche. Haut est vieux le trèfle en fleurs, les chevaux qui s'ébrouent dans les nuits d'été, et le froufrou des rouleaux, des herses et des charrues, le lourd grondement des meubles, des moulins, le chatoiement blanc des foulards des femmes sarclant le potager, est vieille la cataracte de la pluie sur les branches, le tonnerre des grands tétras dans l'aurore rouge de l'été, est vieille cette commune parole nôtre. Voilà. C'est... Bon. Alors, ce qui est intéressant dans ce poème, c'est de le comparer. Vous voyez, ce poème, il se présente comme ça, ce sont des longs vers. Ce qui me fait dire qu'il n'a pas encore véritablement découvert les expérimentations des poètes américains à l'époque. Et puis, quelques temps plus tard, on a des choses, vous voyez, qui sont comme ça. Alors, je vous en lis juste un. Celui-ci vient d'un recueil qui s'intitule « Mots isolés » et qui, lui, est donc publié à Chicago en 1967, donc presque 20 ans plus tard. Quelqu'un debout, j'essaie de rendre compte de la brièveté des vers, quelqu'un debout, enfoncé dans l'eau, rien ne semble le déranger, calme et immobile, debout, il regarde, le flotteur remue, le brouillard flotte. C'est comme une espèce de, on va dire, de condensation extrême du premier. Les images sont du même ordre, mais le minimalisme, l'objectivisme et les expérimentations formelles et aussi la prise de distance par rapport sans doute à sa propre tradition poétique sont passés par là. Et c'est tout autre chose qui en sort. Bon, voilà, je vous donne un aperçu parce que ça me paraissait... C'est peut-être un peu long, mais ça me paraissait intéressant de vous donner cet aperçu de cette poésie qu'on n'a jamais entendue en français. Voilà.
Oui, complètement, et on en avait discuté il y a quelques mois aussi. Comme vous avez vu le film, là, c'est très intéressant d'entendre ces poèmes, puisque vous avez vu qu'au tout début du film, il est sur des plans beaucoup plus longs, parce qu'en fait, il a pas encore non plus découvert au cinéma l'expérimentation formelle. Et donc, son rêve, c'est de faire ce qu'il appelle des vrais films. Donc, il est plus sur la forme documentaire, mais il s'est essayé à la fiction. Et donc, il essaie de filmer voilà, plusieurs secondes, voire une minute, avec les moyens qu'il a et sa Bolex. Et par la suite, il va laisser tomber finalement le plan pour se concentrer sur le photogramme. Et donc, il y a vraiment un parallèle avec son écriture qui se resserre, où là, on a les mots, presque des syllabes, qui sont vraiment de l'équivalent des photogrammes dans sa pratique cinématographique. Et ce qui est intéressant par rapport aux images qui... Là, enfin, quand tu as lu le premier poème, on a vraiment toutes les images en tête, les foulards, les femmes, le travail dans les champs, les saisons. Ce qui est troublant, c'est que quand il arrive en Lituanie, il a l'idée de filmer comme dans Walden, par photogramme, de façon assez abstraite. Et en fait, il s'aperçoit que ce qu'il redécouvre résiste à cette écriture cinématographique très expérimentale. Et donc, il revient au plan. Par exemple, pour lui, c'est pas possible de filmer sa mère en jouant avec la caméra. À un moment, il est obligé de se poser. Il pose même la caméra sur pied, il la fixe au sol, ce qui est extrêmement rare chez lui, pour se mettre derrière la caméra avec sa mère. Et là, j'ai l'impression que il revient en fait. Il est entre les deux, mais il revient à aux sensations. Et c'est vrai que ce sont des poèmes qui évoquent beaucoup. Beaucoup les sensations, en fait, plus que une narration. Enfin, on est vraiment quasiment que dans la sensation.
Oui, ce sont des traductions de perception. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Ce sont des traductions de perception dans lesquelles il essaie de privilégier le perçu et non pas celui qui perçoit, c'est-à-dire qu'il est très rare, il apparaît lui-même très rarement comme sujet grammatical. C'est vraiment une, mais pour autant, ce sont comme des, comment dire, des récits de perception. En fait, il y a une temporalité, il y a une narration, il y a une chronologie. C'est l'histoire d'une petite chose perçue. Et d'ailleurs, c'est très proche des poésies orientales, type japonaise, haïku ou autre. Et d'ailleurs, il a lui-même écrit ce qu'il appelle des mauvaises haïkus, ou des haïkus imparfaits, plus exactement. Et il s'excuse même à un moment auprès de Bachot en lui disant « Écoute, voilà, bon, je fais ce que je peux, je ne suis pas à la hauteur, mais je te demande pardon si j'ose montrer mes haïkus imparfaits. Voilà. » Et c'est vraiment ça. Et il y a tout, d'ailleurs, chez Mekas, une sorte de théorie du regard qui s'applique aussi, je pense, à son cinéma aussi bien qu'à sa littérature. Et je crois qu'on le voit dans le film à un moment. Il le dit, il arrive et il regarde d'abord. Il regarde. Et donc, oui, regarder, peut-être avant de parler, avant de filmer, commencer par regarder, ce qui peut paraître une évidence, mais qui ne l'est pas forcément, on va dire.
Oui, complètement. Et par rapport à cette idée de perception, Mekas, il est très inspiré par Henry David Thoreau aussi, qui, dans ses écrits, essaie de ne pas justement se situer comme un sujet qui perçoit, mais faire en sorte que ses lecteurs ressentent directement, en oubliant presque un intermédiaire. Et je trouve que... moi, la poésie de Mekas, je la connais moins bien que toi, pour le coup, puisque je la découvre, j'en ai lu des extraits... en anglais, mais voilà, étant imparfaitement anglophone, c'est pas le même impact que de le lire dans sa langue maternelle. Donc je redécouvre aussi beaucoup de choses par rapport à l'œuvre de Mekas. Et c'est vrai qu'on sent dans ses films, enfin dans Réminiscence en particulier, ou dans ses poèmes, une volonté de pousser le lecteur ou le spectateur au plus près de la sensation, mais de presque d'oublier l'intermédiaire. Alors, ce qui est paradoxal, parce que sa forme cinématographique, on peut difficilement l'oublier, c'est pas un cinéma transparent, fictionnel ou qui serait parfaitement ciselé. Il y a vraiment une forme cinématographique qui est très assumée. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu l'impression, en regardant ces films-là, d'être avec eux dans la campagne lituanienne et de ressentir vraiment la même chose qu'eux. Même alors que là, le film, je l'ai vu, je sais pas, 50 fois peut-être. Et ben, c'est toujours les mêmes sensations qui émergent. Donc, il y a vraiment quelque chose d'immédiat. Et c'est à ce moment-là aussi, après Réminiscence d'un voyage en Lituanie, qu'il commence à théoriser. Il a, comme Michael le disait très justement, il a commencé à réfléchir sur le travail des autres à travers ses critiques. Mais c'est en 72 qu'il commence à théoriser son propre travail et à se dire qu'il est en train d'inventer une forme qu'il va appeler le film journal. Donc le journal filmé en parallèle avec le journal écrit, mais... Par l'ajout du montage, justement de la voix, du son, des intertitres, ça se transforme pour lui en film journal. Donc c'est vraiment une forme cinématographique qu'il invente. Et il commence à réfléchir à ce que c'est de filmer, de ressentir. Est-ce que c'est la même chose d'écrire son journal le soir en se remémorant tout ce qui s'est passé dans la journée où on imagine les poèmes après coup? Ou est-ce que c'est la même chose d'écrire son journal ou un poème le soir avant de se coucher pour se souvenir d'une journée et filmer les notes filmées qu'il prend tous les jours? Donc il commence à se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la même temporalité, que le cinéma en réagit immédiatement et pourtant, il y a tout le passé, tout le vécu qui est contenu dans ces images. Quand il filme New York, en fait, il filme la Lituanie à travers New York. Mais voilà, il commence vraiment à se poser des questions sur la différence entre sa pratique écrite, sa pratique filmée. Et je pense que la traduction des poèmes vont vraiment être une clé pour réconcilier, enfin comme tu le disais au début, un peu réconcilier toute son œuvre et vraiment la considérer non plus comme étant séparée, mais complètement cohérente en fait.
J'ai l'impression d'ailleurs que 1972 est une date clé parce que effectivement, bon, c'est la date du retour en Lituanie. Mais cette même année, il publie un livre sous le titre Réminiscence, qui paraît chez Fluxus, donc à New York, dans la collection Fluxus, ce qui est aussi, du point de vue artistique, je pense, pour lui, une sorte d'aboutissement, ou en tout, soit d'aboutissement ou de fin de séquence et de recommencement d'une séquence nouvelle. Parce qu'il était évidemment, il a été très lié à Makiounas, il a été bon. Et je pense que le fait de publier un livre de poésie chez Fluxus, ça a évidemment pour les artistes de cette époque une importance considérable. Et ça, c'est intéressant que tu dises que c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à théoriser, parce que pour théoriser, il faut avoir une certaine assurance, faut pouvoir accorder suffisamment de considération à ce qu'on fait et être en confiance d'une certaine façon pour pouvoir le faire. Je voulais peut-être dire un mot de ce programme de traduction que nous menons donc au Centre international de poésie. Alors, je ne peux pas en parler sans prononcer, pour commencer, le nom de Aoste Dantziouté, qui est ici devant moi et qui est attaché culturel auprès de l'ambassade de Lituanie en France et qui coordonne avec moi et surtout qui nous a considérablement aidés à mettre sur pied ce projet. Et voilà, je dis aussi le plaisir que c'est de travailler ensemble, de travailler avec toi, Aoste. Alors, ce projet part de ce constat tout bête qui est la poésie de Jonas Mekas n'existe pas en français ou n'existe que très ponctuellement. A fortiori, elle n'a jamais fait l'objet d'une traduction dont on pourrait dire qu'il s'agirait d'une traduction de référence, quoi, avec l'ambition de devenir une traduction de référence. Elle n'a été traduite que de façon indicative dans quelques circonstances comme ça, de revues ou de dossiers particuliers ou d'expositions, mais jamais dans le cadre d'un projet qui problématiserait traduire Mekas, donc ce qui est un peu ce que nous faisons. Et il se trouve que au CIPM, donc au Centre international de poésie Marseille, une méthode de on peut parler de méthode de traduction collective a été expérimentée depuis de nombreuses années et on a cherché à l'adapter. C'est la première fois que l'on fait ça, c'est-à-dire que cette méthode consiste habituellement à mettre en présence des poètes de langues différentes et qui se traduisent mutuellement en compagnie d'un ou deux traducteurs ou traductrices capables de fonctionner dans les deux sens, dans les deux langues. Et des poètes qui ne connaissent pas forcément la langue de l'autre, mais qui apprennent à se traduire en apprenant à se lire et à se connaître d'une certaine façon. Et là, la nouveauté pour nous, c'était de se dire que les poètes ne vont pas se traduire mutuellement, mais ils vont tous traduire le même et qui se trouve être absent puisqu'il est mort. Mais se lancer dans une œuvre au long cours. Et donc, il a fallu constituer une équipe. Alors, ce qui est très pratique, c'est que les traducteurs de poésie lituanienne en France sont peu nombreux, donc on les a très, très vite identifiés. Et il s'agit donc d'Ainis Selena d'un côté, qui est lituanien et traducteur du français vers le lituanien et du lituanien vers le français. Jean-Baptiste Cabot, qui n'est pas véritablement un traducteur de lituanien, mais qui travaille aux révisions, notamment des traductions d'Ainis, et qui a donc une connaissance suffisante du lituanien, et Marielle Vituro, dont tu parlais tout à l'heure, Cécile, qui est journaliste, qui couvre pour RFI, c'est ça, les Pays-Baltes, et qui vit, elle, à Vilnius. Et puis, côté des poètes, Anne Portugal, qui est une poète française qui a une œuvre considérable publiée, qui est d'ailleurs la doyenne de l'équipe, si je puis dire, et qui a une œuvre considérable publiée en grande partie chez POL, ou quasi même totalité chez POL, et qui est une traductrice chevronnée habituée aux traductions collectives. Stéphane Bouquet, qui est un poète français, lui aussi auteur d'une œuvre importante, est traducteur de l'anglais et de l'italien, et une jeune poète et traductrice qui vit à Marseille, mais qui est d'origine double origine iranienne et allemande, et Roxana Hachemi, et qui s'occupe notamment d'une revue dans laquelle il y a beaucoup de traductions, qui est la revue Muscle, qu'elle co-dirige désormais avec Laura Vasquez à Marseille. Et donc cette équipe s'est réunie une première semaine en septembre, à la fin de l'été, à Marseille, et avec pour objectif de tenter de s'organiser, tenter de proposer quelque chose, trouver une méthode, comment travailler, comment aborder cette œuvre dans la perspective d'une traduction exhaustive. Et il se trouve que, d'une part, d'un point de vue relationnel, les choses se sont extrêmement bien passées entre eux, ce qui n'était pas gagné, mais ce qui est... Le casting était bon et ils se sont passionnés, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant toute une semaine et ils ont traduit 50 pages de poésie qui sont des traductions qui doivent être encore un peu reprises, un peu révisées, mais j'ai tout relu ce matin justement avec trois mois de recul, elles sont publiables en l'état, enfin c'est une vraie réussite, c'est absolument splendide. Donc ce que nous allons faire désormais, c'est poursuivre et donc organiser d'autres séminaires de traduction avec la même équipe et peut-être en l'étendant un petit peu, de façon à pouvoir faire peut-être deux sous-équipes qui travailleraient sur deux recueils différents, et d'aller un petit peu plus vite, puisque l'objectif éditorial, c'est une publication des œuvres complètes pour la rentrée littéraire 2024, ce qui est très bientôt, c'est demain en termes éditoriaux. Si on imagine qu'il faut d'ici là tout traduire, tout réviser, etc., c'est un, et surtout et introduire et présenter, ça fait beaucoup de travail, mais je pense qu'on peut le tenir. Je redis une fois, je suis très fier, très heureux que le CIPM ait pour tâche de superviser cette opération de traduction, encore une fois avec le soutien et l'amitié et la confiance surtout de l'ambassade de Lituanie et de l'Institut culturel lituanien. Voilà en gros le schéma de ce programme de traduction.
Merci. Et là, peut-être on peut revenir un tout petit peu sur le film encore. Ou peut-être vous avez des questions. Ah ben voilà, c'était une question. Très bien.
J'ai pas vraiment une question, merci Miguel. Mais je voulais réagir un peu à des choses que vous avez dit, pas vraiment. Enfin, par exemple, en fait, là aujourd'hui, je me suis rappelé que parce que toi, Michael, tu disais que voilà, tu as parlé de journal, de Mécas, puis de ses travaux critiques, de la poésie. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis parce qu'on a aussi visité la petite exposition que Miglet a fait ici à la Bulac. Et en fait, les frères Mécas, Jonas avec Adolphas, ils ont aussi sorti un livre des contes, en fait. Donc, du coup, il y a aussi ce...
Qui était le premier livre, avant les poèmes. Ouais.
Voilà. Donc, en fait, ça passe aussi par cela. Ça ajoute encore une couche dans l'œuvre de Mécas bien différent. Et puis, en fait, moi, en regardant ce film aujourd'hui... aussi, je ne sais plus combien de fois je l'ai vu, mais là, particulièrement aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à la musique, en fait, et à ces chants lituaniens. Je disais tout à l'heure à l'oreille de Miglet qu'en fait, on a complètement perdu cette tradition à chanter, parce que c'est vrai qu'en Lituanie, nos grands-parents, ils chantaient toujours. Donc, du coup, nous, on se rappelle quand on était petits, on chantait toujours comme Mekas il dit dans le film, s'il y a plus qu'un lituanien, on commence à chanter, et c'est vrai, en fait je me rappelle ça de mon enfance, c'était vraiment la vérité. Mais en fait nos parents ils ne chantent plus, en fait, et nous on a complètement perdu cette tradition. Et et en écoutant justement ces chants traditionnels que moi, tout honnêtement, je connais bien, en fait, je connais même les paroles, etc. Je me dis pourquoi on ne chante pas. Et je ne sais pas si vous avez... je me disais, est-ce qu'il y a même aussi quelque chose qui rentre dans sa poésie, par exemple, de ce chant des chants, parce que lui-même, on le sait bien, il aimait bien chanter. Il chantait toujours, quand il se réunissait avec ses amis, les Lituaniens, mais aussi les étrangers. Et peut-être il y a aussi un rythme de chant, en fait, traditionnel qui ajoute aussi pour sa poésie et pour sa façon de filmer. Je sais pas, c'est juste une chose que j'ai remarqué ce soir. Et c'est tout.
C'est très très bien.
Je suis pas capable de répondre à cette question. Ce que j'observe, c'est que évidemment, comme toute poésie qui tient, la poésie de Jonas Mekas est extrêmement rythmée. Et, en tout cas, elle répond à un rythme conscient. Je pense que là, pour le coup, c'est une question qu'il faudrait poser au traducteur, de savoir s'il retrouve des structures, parce que si elles existent, elles sont observables dans le lituanien. Et donc là, je ne suis pas en capacité de répondre à cette question.
Alors, moi, je ne vais pas pouvoir répondre pour les poésies non plus. On attend la traduction pour vérifier. Par contre, pour le, moi, enfin, comme j'ai en partie travaillé sur la voix parlée et chantée dans les films de Mekas, ce qui est intéressant, tout à l'heure, quand on parlait de l'année 70, 71, 72, enfin, cette période vraiment cruciale pour Mekas, il y a un autre événement qui est lié justement au chant lituanien, c'est la mort de Marie Menken. Je crois que c'est au début de l'année 71 en fait, il commence l'année 71 dans son ciné-journal avec un hommage à Marie Menken et l'été suivant il part en Lituanie et en fait ce qu'il retient de Marie Menken au-delà de, voilà, elle l'a beaucoup inspiré pour les notes filmées etc, mais c'est les chants lituaniens parce qu'elle est d'origine lituanienne qu'ils partageaient ensemble et il parle beaucoup de Marie Menken et dès qu'il se retrouvait il se mettait à chanter. Et donc, voilà, enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir aussi, à travers Réminiscence, un hommage à Marie Menken, quand il filme les fleurs, quand il filme, voilà, il y a un foisonnement, mais aussi vraiment un hommage à la langue lituanienne, au chant lituanien, lié à Marie Menken, mais... Pourquoi ils chantaient avec Marie Menken ? Parce qu'ils étaient exilés tous les deux et que pour retrouver les sensations d'être à la maison, enfin at home, comme il dit souvent, ça passait beaucoup par le chant. Une autre chose que j'avais pu observer, alors tu me diras, Osté, parce que ça peut correspondre au début des années 70, mais après, pour ton enfance, je ne saurais pas dire. J'avais lu un ouvrage qui s'appelle « Le paysage sonore » de Murray Schaeffer, qui est très intéressant. Et qui parlait justement de la transformation du paysage sonore dans les régions rurales au moment de l'industrialisation et le fait que les gens avant chantaient, parce qu'ils s'entendaient chanter quand ils travaillaient avec les outils traditionnels qu'on voit dans le film, et qu'à partir du moment où on peut imaginer l'ami de Mekas sur son tracteur, il ne peut pas chanter en fait, il n'entend plus. Et donc les chants ont disparu aussi de cette façon-là. Et là, au début des années 70, c'est un milieu encore très rural. La maman de Mekas est quand même âgée, donc c'est aussi la mémoire voilà, de toute cette période. Mais peut-être que ça se perd les décennies suivantes, en fait, dans les années 80-90. Voilà, cette liberté, cette volonté de partager les chants. Mais voilà, je peux me prononcer sur ces observations, je ne pourrais pas te dire... dans ta famille particulièrement, ce qui s'est passé.
Non, mais juste une réaction par rapport à ce que tu as dit. C'est après, dans les années 90, avec l'indépendance aussi, fait, le mouvement de l'indépendance, en lituanien, on dit que c'était aussi une révolution chantante. Donc, du coup, en fait, le chant, c'était aussi quelque chose... qui était très présent à ce moment-là, mais oui, après c'est vrai que je suis très d'accord aussi avec toi que les vies différentes, le quotidien différent, c'est bien sûr que c'est très difficile de se mettre à chanter quand on se rencontre, mais peut-être il faudrait justement.
Moi, par exemple, dans ma famille, on chantait tout le temps, pendant toutes les soirées, les anniversaires. Et il y avait quand même avant cette tradition que les grands-parents et les oncles et les tantes et les enfants, tout le monde faisait la fête ensemble, en fait. Mais vraiment, on faisait la fête. Donc, et tout le monde chantait, du coup. Et il y avait toujours quelqu'un qui savait jouer un instrument. Donc voilà, peut-être c'est ça ce qui a changé, parce que du coup, je ne sais pas, on ne joue plus aux instruments un peu traditionnels. Du coup, on perd aussi les chants traditionnels. Ou peut-être il y a une sorte de... peut-être il y a une sorte de segmentation aussi au niveau de la fête. On fait plus la fête avec nos parents. Peut-être il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu exactement le même sentiment qu'Osté, cette nostalgie de ces chants à table, pendant les dîners de famille, ou même juste comme ça, le soir, tout le monde assis. On regarde pas la télé, mais on chante. Mais peut-être, ouais, c'est peut-être quelque chose de lituanien, ou pas que, mais voilà. Et qui, c'est vrai que ça a disparu, malheureusement.
C'est vrai que ça apporte... Oui, allez-y.
Oui, concernant les chants qu'on entend dans, dans le film, je me suis fait une remarque, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire des livres de Norbert Asbelius, qui est un historien des religions, qui travaille en particulier sur le folklore lituanien. Et au début de son travail d'historien, jusque dans les années 72, en fait, il va faire des expéditions pour récolter et conserver des chants et tout un tas de traditions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a des chants plutôt traditionnels, il y a des chants qui sont très individuels, qu'on entend dans le film, qui sont qui racontent la vie un peu. Il y en a d'autres, un en particulier, qui est le chant du kolkhoz, où il chante « Oui, qu'est-ce que c'est bien d'habiter dans le kolkhoz Yanibé », qui veut dire l'union, et enfin, qu'est-ce qu'on vit bien. Et ça me faisait penser à des remarques que je lisais sur les difficultés pour récolter, rassembler ces chants. C'est bah, il faut des chants qui soient en faveur de l'Union soviétique. Donc je me demande dans quelle mesure du coup ces chants lituaniens qui sont très attachés aux racines lituaniennes, dans quelle mesure ils n'ont pas pu disparaître aussi, bah, parce que en effet la vie s'urbanise, s'industrialise, mais aussi parce que il y a ils sont plus ou moins en accord avec un courant politique, enfin avec le régime soviétique, quoi. Et du coup, ça me pose la question, en sachant que ce film, du coup, il a été filmé en partie avec une forme de surveillance. Quelle part ça a, en fait, tout ce passage un peu d'ode au régime soviétique avec les chants de la joie du travail dans le kolkhoz, en fait.
Je pense que c'est aussi lié aux fermes collectives, enfin, le fait que un de ses frères est en charge d'une ferme collective et qu'en fait, je pense qu'il n'a pas trop le choix que de faire la promotion de ce travail-là. Miglet, tu voulais répondre?
Oui, je voulais dire à peu près la même chose. Mais oui, et après, je pense aussi que ce qui est très important à dire, et tu l'as déjà dit, Osté, c'est le fait que le chant, ça revenait dans l'histoire de Lituanie comme une sorte d'outil, outil de résistance, en fait. Donc là aussi, préserver ces chants traditionnels qui sont purement lituaniens, qui renvoient à toutes ces racines archaïques, c'est aussi une forte forme de révolte contre l'oppresseur, dans mon sens. Oui. Donc c'est pas étonnant, voilà, qu'ils préservent ça, et bien sûr après on voit une sorte de, on voit aussi un reflet de la réalité soviétique, qui, je pense pas qu'il a voulu cacher ça, il voulait le montrer, mais il voulait le montrer autrement de ce qui était attendu de lui. Donc c'est là aussi, il y a peut-être ça mène vers un autre sujet, mais moi, en regardant ces films, j'ai toujours l'impression qu'il est un joueur. Il joue. Il joue avec le spectateur, avec l'image. Il joue avec sa pellicule qu'il coupe et colle. Et ça, c'est assez impressionnant, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça.
Moi, ce que tu dis croise quelque chose à quoi je pensais justement en voyant le film. C'était que, bon, fondamentalement, quand il fait un film, il est cinéaste, et je pense que, y compris avec sa famille, c'est certes, Jonas Mekas revient voir sa mère, ses frères, sa famille, son village, etc., mais il se trouve que Jonas Mekas est cinéaste, donc il a quand même une question en tête, c'est comment est-ce que avec ça, avec je reviens, la situation qui est, je reviens, comment est-ce que je vais à partir d'une situation existentielle d'une force incroyable, comment est-ce que je vais créer des situations cinématographiques? Et on voit en fait une série comme ça d'expérimentations, comme une sorte de série de petits films dans le grand film. La scène des mesures, par exemple, des grandeurs avec les bâtons et tout. Enfin, c'est extraordinaire de ce point de vue-là, sur la façon de placer la caméra, la façon dont il convainc sans doute les gens qui devaient peut-être un peu résister à faire les guignols devant la caméra. Finalement, il y parvient et c'est très doux et c'est très respectueux des uns et des autres et tout le monde rigole et on voit qu'il y a une grande... c'est aussi ces gens qui ont des vies très dures. À un moment, ils crée une situation où tout le monde rit, quoi. On est content de faire un truc tout bête, qui est se mesurer les uns les autres, se comparer nos corps, penser à autre chose. Et je trouve que ça, c'est très, très beau, quoi. Et je pense qu'on peut, certes, avoir une lecture historique, biographique, politique, de choses. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la lecture fondamentale, c'est une lecture artistique, c'est une lecture cinématographique qu'il faut avoir de ces objets-là, qui, du coup, certes, ont toutes ces composantes-là, mais sont aussi il y a aussi une composante qui est en excès total sur toutes les autres interprétations, qui est la composante esthétique, qu'il maîtrise parfaitement, ou en tout cas... dont il maîtrise l'expérimentation.
Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, oui, par rapport à ça, c'est que le film précédent de Réminiscence, enfin, le film journal, on va dire, c'est Walden. Et alors, Walden, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur la composition, sur le montage du film. Mais c'était revoir des notes filmées qu'il avait un peu prise comme ça au jour le jour. Et il a filmé sans se considérer vraiment comme étant cinéaste expérimental, puisque lui, il avait encore cette idée de vouloir faire des vrais films. Et à un moment, il a commencé à revoir toutes les notes filmées qu'il avait prises, et il s'est dit, mais en fait, là, bon, il y a Walden qui est en train d'émerger. Et pour ce film, là où tu as complètement raison, c'est qu'il part avec l'idée de faire un film. Il n'emmène pas juste sa caméra dans sa poche en disant « je me promène dans la rue à New York » ou voilà, en Lituanie. C'est « je pars avec l'intention de faire un film sur mon retour ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Mekas, je suis complètement d'accord avec toi, il est joueur. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre son humour et je pense que je ne l'ai pas encore complètement compris, y compris quand j'ai pu le rencontrer. Il avait toujours tendance à dire « non, non, mais tout est du hasard, j'ai rien maîtrisé, j'ai rien pensé, le montage, je l'ai fait en 2 jours, etc. » Alors qu'en fait, voilà, c'est pas possible d'arriver à cette maîtrise-là. Donc, par exemple, toute l'expérimentation formelle de la partie en Lituanie, sa version, je vais pas me permettre de contredire, mais c'est je suis partie avec une caméra Bolex défectueuse qui changeait d'exposition en permanence, qui sautait de 24 à 32 images. Et donc, j'en ai pris le parti et je me suis dit que on allait filmer comme ça. Et voilà. Il y a sans doute une part qui est sincère, mais je pense qu'il était beaucoup plus malin que uniquement confier toute son œuvre au hasard. Et d'ailleurs, la dernière partie qui se passe à Vienne, il y a quand même les personnes les plus influentes du cinéma expérimental et de l'histoire de l'art expérimental à ce moment-là. Annette Michelson, qui est une très grande historienne de l'art, Ken Jacobs, qui est un cinéaste qui est reconnu à ce moment-là, Peter Kubelka, avec le cinéma structurel, qui est aussi qui a cofondé l'anthologie Film Archive avec Mekas, et Hermann Nitsche, qui est toujours vivant et qui est un des actionnistes viennois les plus avec la carrière la plus longue. Donc c'est lui se situe très modestement en enviant beaucoup Peter Kubelka, qui n'a pas connu l'exil justement, et en étant fasciné par leurs œuvres. C'est son milieu, il fait partie de ces gens-là. Et on peut imaginer que toutes les conversations qu'ils ont à table, il y a une partie sans doute sur la nourriture, parce qu'ils aiment tous boire du vin et bien manger, mais on peut vraiment presque sentir que ce sont des débats d'idées sur l'art, en fait, sur le cinéma, sur la situation du cinéma, sur la situation de l'art en Europe, aux États-Unis. Donc effectivement, il peut nous laisser penser qu'il y a une forme de naïveté et de fraîcheur, mais c'est très profond aussi.
Peut-être quelqu'un en question. Ok, pas de questions.
Peut-être que j'avais imaginé une fin.
Ah.
Puisque je vous ai parlé des haïkus imparfaits, il se trouve que quelques-uns ont été traduits. Alors, comme ils ont été écrits en anglais, c'est Stéphane Bouquet qui les a traduits tout seul dans le train, je crois, lors d'une escapade qu'il a dû faire durant le séminaire. Donc, il y en a très peu, c'est des haïkus, donc ça va très vite et ça fait une fin amusante. Donc le 4 octobre, mais il n'y a pas l'année. Donc 4 octobre. Mais on suppose que c'est plutôt tardif. En chemin vers JFK, non, 4 octobre, New York, c'est important. En chemin vers JFK, les gouttes de pluie sur la vitre entrouverte de la voiture. 4 octobre, Atlantique. L'avion endormi. Dehors, la lune. Dessous, l'automne. Ça, je trouve ça splendide. Dessous, deux points, l'automne. C'est génial. 4 octobre, Atlantique. Dans l'avion, un homme endormi, chaussures à ses côtés. 5 octobre, Paris. Matin clair d'octobre, taxi à De Gaulle, Paris extatiquement blanche. 5 octobre, Paris. Pardonne-moi, Bachot, mes haïkus sont imparfaits. 5 octobre, Paris. Mangeant du canard au Vepler, ici, la dernière fois avec Julius, on parla de Henry Miller. Voilà.
Merci. Merci à Cécile, merci à Michael. Merci beaucoup à vous, à toutes et tous, d'être venus ici ce soir. Et j'espère qu'à bientôt.